Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault, Laure Broulard, aujourd'hui Marc Bisset à la technique de cette émission. Et à la une, cette affaire épouvantable dont on va beaucoup parler dans un tout petit instant avec mon invité en détail, l'affaire du curé du Ruf, un double meurtre dont l'auteur était le curé de ce petit village de Lorraine, hein, de Meurthe-et-Moselle, dont les habitants ont vécu pendant de très nombreuses années, et encore aujourd'hui, dans le souvenir et dans la hantise de ce qui s'était passé. D'une certaine manière, on pourrait dire, sans vouloir faire de café du commerce ou de littérature, que le fantôme de Guy Desnoyers, c'est le nom de ce curé du Ruf, plane encore d'une certaine manière sur ce village. Notre équipe, Justine Vigneault notamment, on a essayé de contacter des gens qui habitent là, simplement pour essayer de constater l'empreinte qu'un tel, une telle affaire peut laisser dans la mémoire collective. Personne n'a accepté de parler aujourd'hui. J'en profite pour dire qu'on entendra quand même des sons d'archives. Laure Broulard est allée chercher dans les archives sonores de la rédaction d'RTL, et on entendra notamment tout à l'heure celui qui était le maire de l'époque, monsieur Arnold, qui s'était exprimé après la libération de Guy Desnoyers, parce que ce qui a divisé la France à l'époque et ce qui a scandalisé un certain nombre de catholiques, c'est que double meurtre, dont un bébé, enfin un fœtus, elle était enceinte de 8 mois, on va vous redire tout ça en détail dans un instant, on risquait en 1956-58 quand même largement sa tête déjà pour un seul meurtre, et l'abbé Desnoyers n'a pas été acquitté bien sûr, mais il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Beaucoup ont voulu y voir une intervention extérieure. Nous en parlons maintenant avec mon invité Jean-François Colosimo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes d'abord écrivain, directeur des éditions du Cerf, vous êtes éditeur également, et en 2000, vous avez été tellement fasciné, frappé, hanté par cette affaire, que vous en avez fait un roman qui s'intitule, on peut toujours, je crois qu'on peut le trouver sur Internet, hein, il est largement épuisé. J'imagine aujourd'hui, mais il faudrait peut-être quand même le penser à le rééditer un jour ou l'autre, parce que c'est un des rares documents qui existe sur cette affaire, le jour de la colère de Dieu. Comment avez-vous été, pourquoi avez-vous été fasciné par cette histoire ?
Moi, je fais partie de cette génération qui a été tout à fait obsédé par cette question, après les totalitarismes, après Auschwitz, après le goulag, oui. Est-ce que on a encore le droit de prier Dieu? Et s'il y a un Dieu, où est-ce qu'il était?
On peut encore croire en Dieu, quoi.
Où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était, n'est-ce pas? D'ailleurs, on peut même se poser la question, est-ce qu'on a le droit d'écrire des poèmes après ces abîmes terribles? Et en fait, par le fait divers, apprenant l'histoire de Guy Desnoyers, je me rends compte que son affaire nous pose exactement la même question. C'est pas une question de quantité, évidemment. Bon, le crime industriel, c'est le crime industriel. On va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Oui. Mais après tout, qu'un prêtre au cœur de l'Europe, juste après guerre, on est en 1950, au milieu du XXe siècle, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait le sacrificateur païen, en quelque sorte, avec un crime abominable. Il tue non seulement celle qu'il dit avoir aimée, mais il tue l'enfant, et il ne fait
après
pas que
l'avoir
tuer
baptisé,
l'enfant.
Après l'avoir baptisé.
Parce que voilà, finalement...
Une petite fille.
Hein, on va le dire comme ça. Ouais. Les prêtres sont des hommes comme les autres. Qu'ils puissent faillir, avoir des aventures amoureuses, devenir meurtrier. Mais lui, c'est ça qui est le vrai mystère, c'est que tout en étant dans le crime le plus absolu, il ne cesse pas d'être prêtre. Ouais. Il a cette schizophrénie totale, et ça, je trouvais que c'était un point d'interrogation. Ouais. Comment ça s'explique?
D'ailleurs, au procès, on parlera ensemble du procès, puisque vous connaissez en détail tout ce qui s'est dit, mais j'ai jeté un œil ce matin sur les notes que j'avais, moi, sur cette affaire. Il va répondre au président, qui lui dit, mais enfin, vous auriez pu, mais, ah ben non, je suis prêtre. Mais vous auriez pu aussi, ah ben non, je suis prêtre. Donc, il est apparu à un moment, en tout cas, dans sa folie meurtrière, moi je sais pas si vous parlez de folie ou pas, que bien tout valait mieux que de mettre en cause sa fonction de prêtre, quitte à tuer deux fois, quoi.
Oui, parce que d'un côté, vous voyez, c'est un homme qui tombe dans le sordide, tuer cette femme avec qui il a couché, l'éventrer, sortir l'enfant, vouloir écraser la tête de l'enfant, la taillader pour pas qu'on reconnaisse, pour pas qu'il y ait de ressemblance. Ouais. On est dans un crime abominable. Ouais. Mais d'un autre côté, il se dit, lui qui est en train d'exterminer son enfance, qui est infanticide, qui, en tant que père, se fait le tueur de sa descendance sur cette terre, d'un coup, il se souvient qu'il est prêtre, il se souvient que si les enfants sont pas baptisés, ils vont pas au paradis. Ouais. Et d'un coup, il lui enlève la vie terrestre, mais il veut lui donner la vie éternelle. Il y a un croisement culturel qui est tout à fait extraordinaire, qui nous pose des tas de questions, en dehors évidemment de son statut de prêtre catholique. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est comment, en fait, dans le crime, on mélange le sacré.
Alors, Jean-François Colosimo, il faut dire à ceux qui nous écoutent, qui découvrent peut-être d'ailleurs pour certains, c'est une question de génération, c'est loin, 1956, le procès en 58, cette condamnation aux travaux forcés à perpétuité, en 1978, et on en entendra tout à l'heure des échos aussi avec des archives sonores d'RTL, Guy Desnoyers bénéficie d'une liberté conditionnelle, il va sortir de prison après avoir effectué 22 ans de réclusion, et il va mourir. Quand vous avez commencé votre roman, il était toujours vivant. Il y a des gens qui sont venus vous voir après avoir lu le livre.
Mais alors, mon malheur...
Il est mort en 2010, disons-le, à 90 ans.
Mon malheur, c'est qu'effectivement, il disparaît. Ouais. Depuis, on sait où est-ce qu'il avait disparu. Ouais. Ça faisait partie de sa libération conditionnelle.
Dans un monastère
de
breton.
L'abbaye de Kergoulan. Ouais. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, je fais le calcul, 1920-2000, 80 ans, pour un homme de sa génération, qui en plus a passé depuis 78 en prison. Et non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais c'est pas simplement qu'il n'est pas mort lui-même, dans sa solitude physique, c'est que le souvenir habite des tas de gens, et le livre publié, ils viennent me voir, une dame se présente, pour un motif personnel, je la reçois dans mon bureau d'éditeur, elle me dit « Regardez-moi », je la regarde, elle me dit « Vous ne voyez pas ?» Je dis « Quoi ?» Elle me dit « La ressemblance ?» Je dis « Avec qui ?» Mais avec lui, qui ça lui ? Le curé du Ruf. Elle me dit « Je pense que je suis sa fille. »
Extraordinaire.
Ma mère, les photos, elle apporte des photos, les secrets de ma mère, cet homme dont j'entends encore les pas crissés sur le gravier, qui vient me voir, que je regarde toute petite d'en haut, et après je le vois plus, c'est le moment où il est arrêté. Ouais. Un monsieur vient me voir et me dit « Je vous remercie pour ce livre, parce qu'il dénoue quelque chose en moi d'extraordinaire. Mon père est mort en se reprochant d'avoir obéi à la République, car il était lui-même socialiste, franc-maçon, très républicain. Oui. Il faisait partie du jury. Oui. Et le juge a ouvert les débats. Les débats ont été très brefs.
1h40. C'est incroyable.
En disant, le président de la République vous demande de ne pas prononcer la peine capitale, c'est-à-dire qu'il ne soit pas soumis à la guillotine, car cela gênerait nos relations avec le Saint-Siège. Le président de la République vous demande ça. Et puis, dernier point, un prêtre qui m'écrit et qui me dit, vous êtes vraiment un sale type, il est vivant, il allait pour se remarier avec une dame qui avait déjà des enfants.
C'est une visiteuse de prison, je crois qu'il avait connu.
On raconte ça.
On a dit ça, on l'a dit.
Et donc, les enfants de cette dame, son premier mariage, ayant lu votre livre, ne veulent plus qu'elle l'épouse. Voilà.
Alors, on va vous retrouver tout à l'heure, évidemment, on va s'attacher à la personnalité de cet homme, à son parcours également, parce que, on l'a compris avec votre anecdote, c'est que il n'a pas eu qu'une maîtresse dans sa vie, et il n'a pas eu qu'un enfant. Dans un instant, après cette première pause, je vais vous raconter rapidement comment l'affaire a éclaté, littéralement, d'ailleurs le mot est juste, en décembre 1956.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes dans la nuit du 3 au 4 décembre 1956. Il est 1h du matin. Depuis des heures, les 300 habitants du village d'Uruf, alertés par le tocsin de l'église, recherche l'une de leurs paroissiennes qui a disparu. Il s'agit d'une jeune femme, elle a à peine 18 ans, elle est enceinte de 8 mois. Elle s'appelle Régine Faïs. C'est le curé qui a alerté le maire, monsieur Arnoux, en début de soirée. Depuis, on la cherche, on l'appelle partout dans les environs du village. Soudain, Guy Desnoyers, le curé qui dirige les recherches, désigne un fossé rempli de végétation au bord d'une petite route déserte et glacée, la route de Pagny-la-Blanche-Côte. Dans la lumière des lampes électriques, une vision d'horreur. Régine est là, elle est allongée sur le dos, les bras en croix, elle est morte. À ses côtés, on découvre aussi le cadavre de son enfant poignardé et défiguré. Il semble que l'assassin se soit acharné sur le pauvre corps et le visage du fœtus qui a été extrait du ventre de sa mère. L'abbé se met à genoux, il récite le De Profundis et il bénit le corps des victimes, tandis qu'on alerte bien sûr les gendarmes. Dès les premières heures de leur enquête, les gendarmes recueillent des témoignages sur l'emploi du temps de la victime, mais aussi des rumeurs insistantes à propos du curé, un homme de 37 ans, un prêtre que les jeunes du village présentent comme un curé moderne, qui développe depuis son arrivée des trésors d'activité, une équipe de football, des excursions avec les ados, une chorale et même une troupe de théâtre amateur, une troupe d'ailleurs dont faisait partie Régine. Mais la rumeur laisse aussi entendre aux enquêteurs que le curé est également un séducteur. Il y a quelques années, leur confie-t-on, Desnoyers aurait eu une maîtresse, une jeune ouvrière de 16 ans, Michel, qui travaillait dans une verrerie de la région. Elle serait tombée enceinte des œuvres du prêtre. Et on ajoute que Michel s'était d'ailleurs exilé du village pour donner naissance à un enfant qu'elle aurait ensuite abandonné à l'assistance publique. Officiellement, elle avait été violée au cours d'une fête de village. Desnoyers, car les rumeurs avaient déjà couru, avait toujours farouchement nié être le père de l'enfant. Et l'évêque de Nancy, Monseigneur Lallier, s'était même déplacé à cause des rumeurs. Mais le curé du Ruf s'était jeté à ses genoux en protestant de son innocence. Alors, l'Église avait passé l'éponge. Pas de sanction, pas de déplacement dans une autre cure. Guy Desnoyers était demeuré curé du Ruf. Mardi 5 décembre, fin d'après-midi, les gendarmes placent le curé en garde à vue. Il nie, il tente également d'ailleurs une ultime défense en se servant de l'arme de son sacerdoce. Il montre aux gendarmes son manuel de théologie. « Je connais l'assassin, dit-il. Il n'est pas ici. Mais je ne peux rien vous dire de plus car je suis lié par le secret de la confession. Lisez, c'est écrit là. » Le gendarme, bien sûr, ne le croit pas. Il continue à le questionner inlassablement. Il relève des incohérences dans son récit. Au bout du compte, le jeune prêtre finit par craquer, alors il avoue. Oui, Régine était bien sa maîtresse. Oui, il l'avait mise enceinte. Mais à la différence de la petite Michel qui avait accepté quelques années plus tôt de garder le silence et d'abandonner son enfant à l'assistance, à la différence aussi d'une autre jeune fille, encore, qu'il avait menée dans une ferme, chez une faiseuse d'anges, qu'il avait payée en liquide avec l'argent de la quête, s'il vous plaît. Régine, elle, avait refusé de s'exiler. Elle voulait bien garder le silence, ses parents également, mais elle ne voulait pas d'un accouchement clandestin. Cas de conscience pour l'abbé, et si à nouveau la rumeur publique le dénonçait à l'évêché, et si l'enfant lui ressemblait, que faire ? Alors au soir du 3 décembre, il avait donné rendez-vous à Régine, enceinte donc, comme on l'a dit, de 8 mois. Pour parler, explique-t-il aux enquêteurs, pour tenter encore une fois de la convaincre qu'elle aille ailleurs, loin du village, pour accoucher dans le plus grand secret. À 18h, il était monté dans sa 4 chevaux pour se rendre au rendez-vous qu'il lui avait fixé à la sortie du village, au pied du calvaire. Régine était bien là, à l'heure dite. Elle monte près de lui, sur la route qui mène à Pagny. Il gare la voiture sur le bas-côté, lui propose de faire quelques pas ensemble, malgré le froid et la nuit qui tombe, pour parler encore un peu, dit-il. À 2 reprises, il lui propose même de lui donner l'absolution pour son mensonge. Mais Régine ne comprend pas. Elle refuse, elle s'éloigne sur la route déserte et Guy Desnoyers la suit. Soudain, il sort de sa soutane un revolver 6.35 et il tire. À 3 reprises, dans le dos. Régine s'écroule, tu es net. Il se penche alors sur elle, un couteau de scout à la main. Il va opérer une césarienne. extraire le fœtus, baptiser la petite fille que les experts diront plus tard née viable. Et ensuite, l'horreur supplémentaire, il défigure l'enfant à coups de couteau pour qu'une éventuelle ressemblance ne le dénonce pas après la découverte de son forfait. Prison, 2 ans passent, 1958, le procès. La France entière bouleversée va suivre les débats de la cour d'assises de Nancy qui révèle toute l'horreur de ce double crime dans une France rurale encore très catholique où la mère de la victime va même déposer en continuant à l'appeler Monsieur le curé. À l'issue de 10 heures de procès et d'1h40 de délibéré malgré un réquisitoire implacable de l'avocat général, le curé du Ruf, qui méritait 100 fois la mort selon certains de ses paroissiens, est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Décidément, là encore, les voix du Seigneur se sont montrées impénétrables. Nous allons retrouver mon invité Jean-François Colosimo dans un instant, parler de la personnalité du curé du Ruf, revenir sur les épisodes, les rebondissements du procès, sur les témoignages et puis la réponse à cette question. Y a-t-il eu intervention? Quelqu'un a-t-il réussi à convaincre le président de la cour d'assises d'inciter les jurés à épargner le prêtre, à ne pas l'amener jusqu'à la guillotine? Réponse dans quelques minutes.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'affaire du curé du Ruf à la une de l'heure du crime, mon invité Jean-François Colosimo, écrivain, éditeur, a été tellement, il nous l'a raconté tout à l'heure, fasciné par les questions que posait ce fait divers, qu'il en a fait un roman, qui s'intitulait Le jour de la colère de Dieu. On l'a pas dit tout à l'heure, Jean-François Colosimo, mais en fait dans ce roman, vous preniez un petit peu l'histoire à l'envers, c'est-à-dire vous imaginiez quand vous avez appris, évidemment comme tout le monde, que en 1978, et on l'évoquera tout à l'heure, mais Desnoyers avait été mis en liberté conditionnelle, vous avez dit, mais comment cet homme peut continuer à vivre? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est ça, en fait, votre livre.
Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, oui, par rapport aussi aux faits? Alors, c'est quand même un point important, parce qu'au fond, cette histoire est importante, parce qu'elle touche au fondement de notre imaginaire. Hein. C'est lorsque Dieu dit à Abraham, tue-moi ton fils pour montrer ta foi, l'Abraham va pour le faire, puis Dieu s'arrête. Et puis, tout le christianisme, c'est notre culture de fond, on croit pas, elle est là, elle est présente. C'est l'histoire d'un Dieu qui envoie son fils pour mourir. Et lui, il tue son enfant, alors qu'il est prêtre, alors que normalement, l'Eucharistie, il n'y a plus de sang. Et lui, il restaure le sang, au cœur de l'Europe, là. Donc, ça me semblait quand même une histoire assez forte. C'est quoi le sacrifice? C'est quoi le sacrificateur? Qu'est-ce que nous raconte tout ça? Et je crois que ça a terriblement choqué, non seulement parce que c'est parfaitement horrible, mais parce que ça a touché à des registres vraiment très anthropologiques. Est-ce que les parents... On dit toujours, le plus terrible pour des parents, c'est de voir mourir leurs enfants avant eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire des parents qui tuent leurs enfants? Mais ça, c'est la question du XXe siècle.
Bien sûr.
Des hommes ont tué des enfants. C'est tout le problème des génocides.
Alors, qui était cet homme? Parce que, comme je disais, que vous connaissiez très bien le dossier. On a parlé de sa personnalité, évidemment, au moment du procès, comme on le fait toujours.
Un petit Lorrain paysan. Alors, rappelons dans quelle France ça se passe. Il n'y a pas les banlieues, il n'y a pas l'industrialisation. C'est la France des paysans. C'est la France des villages. C'est la France où, dans chaque village, il y a un boucher, un boulanger, un maire et un prêtre. C'est au moment où il y a encore des prêtres par dizaines de milliers en France. Les séminaires sont pleins. Et donc, pourquoi? Parce que il est un de ses enfants. La grand-mère a décidé que ça serait lui. Parce que c'est le préféré. C'est l'élu. Il sera prêtre parce que, quand on est dans une famille catholique, paysanne, donner un de ses enfants à l'église, c'est grand. Mais quel enfant? C'est un brave type. Il est pas brillant. Dès le séminaire, on doute que vraiment il soit fait pour ça. Hein. Ses pères, on le fait à difficulté. D'ailleurs, on le promène un peu de paroisse en paroisse. La dernière paroisse dans laquelle il va être, Uruf, 400 habitants. Ouais, on peut 400, pas dire qu'il était promis à être un prince de l'église. Et en fait,
mais là, il est actif quand même. Tous les jeunes disent aux gens, mais c'est un curé moderne.
Une nouvelle vague avant
l'heure. Il joue au foot, il fait du théâtre.
D'ailleurs, il s'est fait remarquer déjà au séminaire. Oui. connaissait mieux le basket que la théologie, n'est-ce pas? Donc, c'est un gars sportif de la campagne, comme ça, il a été fait prêtre. Il n'a aucune résistance à ses pulsions. Et très rapidement, en fait, il devient un dragueur. C'est ça le
Alors,
problème.
Que les choses soient claires, c'est pas un curé pédophile. Et avant d'avoir des relations intimes avec des jeunes filles, certes mineures, parce qu'à l'époque, la majorité, c'est 21 ans quand même. La première, elle a 16 ans, la deuxième, 18, etc.
Elles sont mineures, mais ce ne sont pas des enfants. Donc, c'est pas un pédophile. C'est un type qui est un hétérosexuel qui ne sait pas arrêter ses pulsions.
Mais on dit, moi je profite de votre présence pour vous poser la question, j'ai lu, mais c'est au stade de la rumeur ce que j'ai lu, que on racontait dans la région, dans le pays, qu'un jour on l'appelle pour donner l'extrême onction à un monsieur qui vient, que cette personne meurt, et qu'il va avoir des relations sexuelles avec la femme, la veuve.
Oui.
Dans la cuisine, quoi.
Alors ça, c'est raconté au procès. Vrai, faux.
Ça a été raconté au procès.
Énorme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu des tas de conquêtes. En plus, il se débrouille toujours pour les mettre enceintes. Et en plus, il leur demande d'avorter.
Il n'y a pas la pilule, il n'y a pas.
Certes, il n'y a pas tout ça, mais on sent que c'est une espèce, enfin, de mâle alpha dominant, chez qui la sexualité est une activité, malheureusement, très forte dans son cas.
Et c'est un maître du mensonge, même s'il absout ces jeunes filles en disant tu peux mentir, je t'absous. L'une d'entre elles, là, dont on a parlé tout à l'heure, Michel, elle est enceinte de lui. Il lui fait raconter qu'elle a été violée au cours d'une fête de village par un légionnaire ou par un militaire.
De passage. Un type qui va partir à la guerre d'Algérie.
De passage,
il va y mourir.
Donc c'est quand même travaillé, hein, le scénario. Et ensuite, il la force à abandonner cet enfant à l'assistance publique.
C'est un type qui est incapable, c'est ça aussi qui est important, parce que c'est dans le prototype un peu du bourreau du XXe siècle. C'est un type qui est incapable de retour sur lui-même, de retour critique, de repentance. Et c'est ce qui va le mener au meurtre absolu, parce qu'il couche avec elle, il les fait avorter, ses filles, il les fait mentir, et il continue comme ça à faire le gentil prêtre qu'il n'est pas. Puisqu'il est fautif par rapport à toutes ses promesses. Et en fait, même quand il se fait choper par l'évêque, parce que malgré tout, l'institution, elle fonctionne, il y a des rumeurs, l'évêque lui rend visite, le déplace dans ce village perdu. Un évêque en 1950, c'est une puissance. Il se rend là-bas, il lui dit, voilà ce qu'on raconte sur toi, que fais-tu? Il se jette au pied de l'évêque, il pleure, il sanglote, il dit, ce sont des mensonges abominables. L'évêque est ébranlé, ne sait plus quoi penser, et le laisse en place. Donc, on a affaire à un criminel, c'est-à-dire au sens de l'endurcissement.
Alors, au moment du procès, j'ai relu mes notes ce matin, j'ai trouvé la photocopie d'un article qui était signé à l'époque. Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, dans les temps modernes, fait une fixation sur cette histoire. Il va assister au procès, il va faire un compte-rendu absolument extraordinaire de ça. Et la première chose qu'il note dans son récit, c'est que quand, vous savez, fait entrer l'accusé, phrase célèbre, il entre. Alors, il est pas en soutane, mais il est habillé en noir, avec une chemise sans col, enfin, tout ce qu'il faut pour rappeler sa condition de prêtre. Il va continuer à jouer sur le respect dû au prêtre pendant son procès, quand même.
Parce que c'est ce que note Lanzmann. Il y a aussi Marcel Jouandeau, n'est-ce pas? Marcel Jouandeau parle d'un crime rituel. Lanzmann, lui, il appelle ça la raison d'église comme une raison d'État. Alors, on va expliquer rapidement. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans cette France? La droite, le Figaro, dit, eh bien, ce prêtre, c'est une branche pourrie, on coupe la branche, et puis l'arbre n'en sera que plus beau. Mais c'est pas comme ça que pense l'Église. Pour elle, c'est un de ses prêtres. L'Église l'a fait prêtre. Et il est hors de question de dire, c'est un pourri, et nous sommes très bien. Elle doit s'occuper de lui. À l'arrivée au procès, il descend de ce qui s'appelle à l'époque véritablement le panier à salade, et ça y ressemble, avec un prêtre qui le traîne par le bras et qui jette le crucifix contre les journalistes, n'est-ce pas?
Donc, des rétro-journalistes.
C'est intéressant, mais c'est une époque révolue. Et en fait, ce que Lanzmann comprend, que ne comprennent pas les journalistes habituels, judiciaires, dans le sens de ceux qui sont de gauche en disant, voyez, l'Église c'est abominable, de ceux qui disent de droite, mais non, c'est pas l'Église, il suffit de s'en débarrasser, c'est une mauvaise recrue. Non. L'Église, malheureusement, est obligée de dire qu'elle l'a fait prêtre, et que prêtre c'est pour l'éternité, comment on fait? Et à partir de ce moment-là, Lanzmann dit, finalement, l'Église se comporte beaucoup mieux que l'État. Enfin, il y a un problème, là. Il y a une raison d'Église comme la raison d'État. C'est paradoxal. Alors, Lanzmann n'est pas un homme d'Église. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est le futur auteur de Shoah. Et on voit bien le lien, quand même. Pourquoi son attention sur ce crime, hein.
Alors, on fait une pause très brève, hein. Et puis, on va se retransporter en 1978, vous raconter ce qui est devenu Guy Desnoyers par la suite.
L'heure du crime sur RTL.
Avant de dire ce qu'est devenu Guy Desnoyers à partir de 1978, quand après 22 ans de prison, il a bénéficié d'une libération conditionnelle, Jean-François Colosimo, faut revenir quand même sur ce procès. Il a été bref, hein, 10 heures, c'est rare, quand même, en cour d'assises pour un double meurtre. Alors, il y avait peut-être toutes les raisons que vous avez exprimées tout à l'heure, mais si j'ose dire, vous connaissez ce procès par cœur. Qui défendait, comment peut-on défendre justement un homme qui a commis ce double meurtre horrible? Il avait deux avocats, oui. Dont le bâtonnier Robert Gass, oui. Et un autre avocat.
Alors le bâtonnier, c'est bien la preuve là, oui. Que je veux dire, c'est une affaire d'État. Je veux dire, c'est quand même, on met
le bâtonnier en général, il se sacrifie aussi un peu quand les autres ne veulent pas y aller. Hein,
absolument, mais on voit bien quand même aussi une affaire, ouais. Qui engage d'un coup. Voilà. Et qu'est-ce que va faire le bâtonnier? Ouais. Le bâtonnier, il va, en fait, poser le problème de la peine capitale. Ouais. C'est l'occasion rêvée. Est-ce qu'on peut guillotiner un prêtre, ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut guillotiner tout court, voilà, en prenant prétexte de la justice de Dieu qui échappe à la justice des hommes.
Avec des arguments extraordinaires, je ne vais pas être long, hein, mais je vous cite deux phrases du bâtonnier Gass. Mon Dieu, c'est lui qui parle, hein. Descends dans l'âme de la cour et dans la conscience des jurés, dis-leur qu'ils n'ont pas le droit de toucher à la vie qui n'appartient qu'à toi seul.
Ah. Oui. Alors voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une extraterritorialité? Est-ce qu'il y a un caractère extra-juridictionnel? Ouais. Et puis, en même temps, il y a quand même le caractère insondable de ce crime. On se dit, le type est vraiment... Ouais. Parce qu'encore une fois, c'est l'introduction du sacré. Hein. C'est ce baptême avant d'écraser la tête, de la tailladée. Ouais. Pourquoi a-t-il fait ça? On se dit, c'est un problème démoniaque, n'est-ce pas? On est encore quand même une France qui croit encore au diable. Parce que quand on croit à Dieu, on croit encore au diable.
Et il y avait un autre avocat dont vous me parliez hors micro.
Stéphane
Ecquet, oui.
Alors qui est un ami de Roger Nimier, des hussards d'Antoine Blondin, qui est donc un dandy parisien qui s'installe dans le procès et qui, lui, va leur dire tout simplement aux jurés, vous ne pouvez pas couper. Ce crime est trop abominable. Il est démoniaque. Il vous échappe. C'est un crime métaphysique. C'est un crime métaphysique. Donc vous pouvez pas le juger. C'est pas à mesure humaine. Abandonnez-le à son Dieu. Ça sera un juge plus redoutable que vous. Laissez-le vivre avec son malheur et son péché dans cette vie. Et s'il y a une vie éternelle, il ira en enfer. Donc laissez faire Dieu. Alors, laissez faire Dieu. Il sera un juge plus redoutable que vous.
Cela dit, il y a eu, c'est vraiment un procès qui compte aussi dans les annales judiciaires. Je pense là aux magistrats qui nous écoutent, aux avocats, ou aux avocats généraux. j'ai sous les yeux une partie du réquisitoire du ministère public. Donc, je cite l'avocat général qui dit, il s'adresse directement à Desnoyers. Et il lui dit, je ne sais si ce Dieu que vous avez ignominieusement servi aura pitié de vous, à l'heure peut-être proche de votre mort, puisqu'il va demander, lui, la décapitation, la guillotine. Et il continue, moi, je ne connais que la justice des hommes, et je sais qu'elle ne peut pas vous pardonner. Une phrase qui était citée dans l'article de Lanzmann.
Bien sûr. Alors, c'est tout la question. Est-ce que on peut le juger de manière ordinaire? Alors, bon, le crime paraît extraordinaire, mais son état à lui est extraordinaire aussi. C'est un prêtre. Et là, on tombe sur le problème des deux France. Un problème qu'on a un peu oublié, mais héritier, ce problème de la Troisième République, des lois de la laïcité, de l'expulsion des congrégations, de la question des cultes. Voilà. Donc, c'est cette France, d'un côté, on va dire, un peu ratsoc, franc-maçonne, très républicaine, et de l'autre, la France catholique. Est-ce que, à ce moment-là, le gouvernement, on sort de la guerre, De Gaulle n'est pas encore au pouvoir, hein, il y a pas, la 4ème République s'enlise, etc., instabilité gouvernementale, Est-ce que c'est le moment, en envoyant un prêtre à l'échafaud, de ranimer cette guerre dont on sait qu'elle est quand même profondément inscrite, même si finalement, au fond, la religion de la France est une sorte de catho-républicanisme qui n'est pas son nom. Mais là, les passions sont encore vives.
Est-ce qu'on sait, Jean-François Colosimo, est-ce que vous savez comment... est-ce que Desnoyers parle dans ce... J'ai rien là-dessus, j'ai rien trouvé.
Ben, il est d'abord, il ne dit rien, ce qui explique aussi la brièveté des débats. Il dit oui. Oui, on lui dit, vous avez fait ça. Oui. Et il dit, je ne m'en souviens pas. Mais si vous le dites, c'est que c'est vrai. Mais le préjuge, le président lui dit, mais c'est vous qui l'avez fait. Il dit, donc c'est moi qui l'ai fait. Vous n'avez pas honte? Bien sûr que j'ai honte. Il répond laconiquement, c'est-à-dire à toutes les questions négatives qu'on lui porte, toutes les accusations qu'on porte, il les endosse d'une manière mécanique, parce que manifestement, il est sonné. Son crime l'a vidé de toute substance. C'est-à-dire, une fois qu'on a atteint tel crime, comment est-ce qu'on retourne même à son identité la plus ordinaire, vous voyez? Manifestement, ce type-là a traversé le miroir. Et donc, il se tait, il encaisse tout, et il reconnaît sa culpabilité, et en fait, il admet, on lui dit « travaux forcés à perpétuité », il dit quasiment « merci, je pars pour expier ». J'espère que ça sera dur. Donc il est confessant de sa faute. Quoi.
J'ai retrouvé un bref extrait d'une dialogue avec le président qui lui dit, je faisais allusion tout à l'heure, mais là j'ai retrouvé le texte exact. On dit que vous avez songé à partir avec Régine. Partir, quitter, pourquoi pas finalement se défroquer, aller vivre. Je jure devant Dieu, ça c'est Desnoyers qui répond, que je n'ai jamais songé à partir avec elle. Le président dit, mais pourquoi? Je ne pouvais pas. J'étais prêtre.
Bien sûr.
Et le président lui dit, mais, et le suicide? Vous n'y avez pas pensé, le suicide? Et il dit, je ne pouvais pas. Je suis prêtre.
Bien sûr, on peut pas suicider.
Et le président continue, et vous défroquez, vous mariez? Impossible, je suis prêtre. Donc toutes les solutions qu'il trouvait étaient plus graves pour lui que le meurtre de cette malheureuse.
C'est ça, le mécanisme diabolique, c'est une histoire de Dostoïevski, c'est une descente dans l'enfer, dans l'abîme, c'est-à-dire ce type n'envisageant pas de finalement prendre la responsabilité de ce qu'il est, de qui il est, qui est un coureur de jupons, eh bien il va finir par tuer pour essayer d'effacer sa propre faute, parce que son caractère de prêtre, pour lui, est ineffaçable.
On fait une dernière pause dans cette émission, on se retrouve tout de suite après.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de notre émission consacrée à cette affaire énorme, donc du curé du Ruf, avec mon invité Jean-François Colosimo. On parlait de cette libération le 8 septembre 1978, oui. Après 22 ans de prison, Desnoyers bénéficie donc d'une libération conditionnelle. En fait, il est libéré le 5 août, mais personne dit rien. On libère au cœur de l'été, on veut pas de vagues, et on va la prendre en fait le 8 septembre officiellement. Et évidemment, sur RTL, on annonce cette affaire, on rappelle évidemment tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et on donne la parole, et c'est l'ouverture de RTL Matin, on donne la parole à Gabriel Arnoux, l'ancien maire du village à l'époque du double crime. Il était là, il a vu les cadavres, et il exprime, vous allez l'entendre, son amertume au micro de Frédéric Lebellé. C'était très exactement le 9 septembre 1978.
Moi, je serais toujours pour la peine de mort dans des cas pareils. Si vous aviez été à ma place, si vous aviez vu ce que j'ai vu, le tableau, quand on en a trouvé les corps, ben, vous savez, c'est un petit comédien.
Quelle impression il vous a fait au tribunal? L'impression d'avoir réalisé ce qu'il venait de faire ou pas du tout?
Oui, il réalisait certainement. C'est-à-dire qu'il était certainement surpris de la peine qu'il a eue. Favorablement d'ailleurs. C'était pas la première fille qui était enceinte dans un village ou ailleurs, même ailleurs, en ville ou n'importe où. Je ne savais pas que c'était lui, parce que les parents de la jeune fille avaient accepté puisqu'ils avaient déjà acheté le landau, mais sans savoir de qui c'était le père. Ça, c'est une histoire que maintenant il ne faut plus en parler. Le moins on en parle, mieux ça vaut.
Moi, on en parle, mieux ça vaut, c'est ce qu'on nous a répondu aujourd'hui quand on a contacté le maire actuel, etc. Alors, on va terminer, il nous reste vraiment 3 minutes, Jean-François Colosimo. 1978, après, c'est le silence radio, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Puis petit à petit, quand même, on va finir par apprendre des bribes. de choses.
Pour dire la vérité, je pense que, sans me targuer d'une manière vaniteuse, quoi, je pense que c'est ce livre que je fais, ne sachant pas qu'il est encore vivant,
en 2000,
qui va, moi en tout cas, d'un coup susciter des témoignages, et donc, entre autres, un frère de l'abbaye où il s'est retiré. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Pendant 20 ans, il est en prison. On le déménage de prison en prison.
Ah oui, au fait, il reste pas. Pourquoi ? On a peur pour ce.
On a peur pour
sa vie en prison. Oui.
Vous savez que les criminels durs, les vrais de vrais, se font une autre idée de leur honneur ou assimilés comme
ils
tel.
Ils n'aiment pas les violeurs, quoi.
Voilà, ils n'aiment pas les violeurs, ils n'aiment pas les pédophiles, tout ça. Ouais. Mais lui, c'est pas le cas.
Oui.
Mais en même temps, c'est un crime. Enfin, voilà, c'est pas un crime. Bon. Alors. Il vit dans la solitude la plus totale, et c'est dans cette solitude qu'il est projeté lors de sa libération, puisque l'accord de libération prévoit l'endroit où il doit aller. Et c'est cette abbaye de Bretagne, à part que c'est un accord confidentiel.
Dans le Morbihan, près de Plouermel, je crois.
À la fin de la Terre, quoi.
Près de Plouermel,
à la fin de la Terre. Et alors là, bon.
Et c'est le Morbihan.
Deux versions.
Je le dis pour les Bretons qui nous écoutent.
deux versions totalement différentes. L'une, il va bien, il fait du vélo, une visite de prison, il la retrouve, il va pour l'épouser, etc. Ça, c'est une version qui est donnée par ceux qui avaient jugé que mon livre, finalement, était malvenu. Mais lors d'un salon du livre en province, un moine, un type que je ne sais pas, il me vient voir, il me dit, je suis un moine de cette abbaye, et je peux vous dire que votre livre est justifié dans le sens où je peux vous dire que j'étais son voisin de cellule, et en fait, il hurlait toutes les nuits.
Cellule de moine,
cellule de moine, bien sûr. Pas de prison, oui, bien sûr, dans le monastère. Il hurlait toutes les nuits, il hurle toutes les nuits, car vous voyez, finalement, la justice des hommes n'a pas voulu s'occuper de lui, mais finalement, le démon qui l'a possédé, oui, c'est un peu comme dans le chamanisme, folie, cette folie qui à un moment l'a saisie et qui retombait, mais le démon qui s'est saisi de lui continue de le persécuter. Il connaît déjà l'enfer sur Terre, en quelque façon.
Je vous remercie beaucoup, Jean-François Colosimo. Juste d'un mot, le jour de la colère de Dieu, on peut le trouver sur Internet?
J'espère. Oui.
Il existe en version numérique.
J'espère.
Bon. Écoutez, j'espère aussi, parce qu'on a dû donner envie à pas mal de ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui d'aller voir un peu comment vous avez imaginé ce combat intérieur de cet homme.
Merci.
L'émission est maintenant terminée, et on va retrouver Flavie Flamand dans quelques secondes.